Nous espérons que c'est vrai, que nous rendons grâce au Seigneur en toutes circonstances, que nous lui disons merci en toutes circonstances, en toutes situations, en toutes circonstances, même lorsque les choses ne sont pas comme nous le voudrions, car c'est alors que c'est le plus difficile. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il est important que nous puissions le faire. Quand tout va selon notre volonté et notre bon plaisir, nous pouvons très facilement exulter et louer, être joyeux. Mais si les choses ne se passent pas ainsi, que se passe-t-il? C'est alors que l'épreuve nous tombe dessus et demandons au Seigneur de nous faire la grâce de surmonter les épreuves et que la parole de Dieu s'accomplisse en nous. Remerciez Dieu pour tout, en toutes circonstances, car c'est ainsi qu'il le veut. Lorsque le premier cantique a été chanté à propos de la croix et de la couronne d'épines, j'ai en effet pensé à Genèse 3. Lorsque le Seigneur a maudit le sol en disant, il portera des épines et des chardons, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Cette malédiction que le Seigneur a prononcée à propos des épines, et ainsi de suite, il a prise sur lui lorsqu'il était sur terre. Et on l'a couronné d'une couronne d'épines. On s'est moqué de lui et on l'a tourné en dérision. Mais c'est justement là qu'il est devenu évident qu'il a enlevé, ôté la malédiction de nous et qu'il a fait venir sur nous la bénédiction de Dieu. En voyant hier soir ce qui est arrivé ici à notre frère bien-aimé, de l'Union soviétique, j'ai pensé à certaines choses dans les Écritures, à des choses surnaturelles que Dieu a faites, en particulier dans la vie de Saul, qui est devenu Paul. Avant d'en parler brièvement, permettez-moi de me référer à Éphésiens, chapitre 5, à la parole qui nous a été lue. Éphésiens, chapitre 5, et cela fait tellement de bien de souligner que les paroles n'ont pas été adressées seulement à l'époque, à l'église d'Éphèse, mais à tous les croyants de tous les temps, dans tous les pays, dans toutes les villes où qu'ils se trouvent. La parole de Dieu est pour le peuple de Dieu en tout temps et s'applique de la même manière. Heureux celui qui peut la recevoir, croire et vivre avec l'aide de Dieu, cette parole de Dieu. Spécialement le verset 15, Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc bien garde à la manière dont vous marchez, non pas comme des gens sans sagesse, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Celui qui est sage, comme il est écrit dans le prophète Michée, se tait. Celui qui est sage tient sa langue en bride. Car souvent, nous ne pouvons pas retirer, parfois même réparer ce que nous faisons, ce que nous produisons avec des paroles. Mais lorsqu'il s'agit de témoigner de la grâce de Dieu, de parler de ce que Dieu a fait, nous devons alors ouvrir nos bouches et non pas nous taire. Il faut savoir ce qui peut être dit et ce qui n'a pas besoin de l'être. Il faut évaluer à chaque fois le coût de ce que nous disons pour savoir si cela sera une bénédiction pour les autres ou si cela leur nuira. Si nous les édifions ou les détruisons, si nous les aidons ou obtenons le contraire. Bien, obtenons le contraire. Toujours la bonne chose au bon moment. Prenez donc bien garde à la manière dont vous marchez, il relit le verset 15, non pas comme des gens sans sagesse, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont vraiment mauvais. Ils n'étaient pas encore tels Donc les jours n'étaient pas encore tels qu'ils sont maintenant. Ils n'ont jamais été tels qu'ils sont maintenant. L'impiété a pris le dessus, et on peut lire dans la littérature correspondante comment même Dieu est touché, est atteint. Et je pense en particulier à notre théologienne allemande, Madame Zorg, qui s'inquiète du fait que Dieu n'est pas féminin, mais masculin. Elle s'en plaint jusqu'à en perdre la raison et pense que nous avons besoin d'un Dieu féminin, une théologienne. On touche même à Dieu. Il faut se l'imaginer. Les limites ont toutes été dépassées depuis longtemps. Toute mesure est pleine. Ce n'est qu'à cause des élus que Dieu n'a pas encore laissé éclater sa colère. Il veut que les derniers soient appelés à sortir. Alors quelque part, dans les pays scandinaves, un psychologue et un pasteur se marient. Il faut y réfléchir. C'est pire que Sodome et Gomorre. Pire que tout ce qui a jamais existé sur Terre. Un manque de goût jusqu'à ne plus savoir quoi faire. Et comme je l'ai dit, on touche même au Dieu Tout-Puissant. Il faut l'imaginer. Et puis l'argument, oui, je ne veux rien dire ici. Hein. Je veux pas le dire ici. C'est tout simplement trop absurde d'évoquer de telles choses. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir des gens qui ont du respect pour lui et pour sa parole. Des gens qui sont à sa disposition, qui croient en lui et qui lui font confiance et qui considèrent sa parole comme sainte et obligatoire, contraignante, oui, et tel est Dieu, tel est notre droit, et puisse-t-il seulement faire de nous des hommes qui lui soient également agréables, que ce soit notre effort et notre prière à tous. Les versets suivants sont également importants, à savoir le verset 17. C'est pourquoi ne vous montrez pas sans compréhension, mais cherchez à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Verset 17. Hier, nous avons lu au sujet d'Ézéchias. Il a fait ce qui était agréable à Dieu et c'est pourquoi l'approbation de Dieu s'est portée sur lui. Et ce qu'il a entrepris réussit. Il devait faire le ménage. Il ne craignait pas ce qui pouvait lui arriver car Dieu était avec lui. Le peuple a dû être bouleversé lorsque les meules ont été renversées, les arbres idolâtres abattus et tout ce qui n'avait pas sa place éliminé. Mais il n'a pas eu peur car il agissait par l'ordre de Dieu. Et l'heure est proche où nous devons nous aussi agir par ordre de Dieu. Et la hache n'est pas placée au sommet des arbres, mais à la racine. Le mal sera placé à la racine, sera pris à la racine. Et la vérité divine sera une fois de plus placée sur le chandelier. Le masque doit tomber. La tromperie doit être mise en lumière. Et nous avons lu que ce qui est mis en lumière est frappé par la lumière. Et alors cela sera révélé afin que tous les hommes puissent le voir. Nous ne voulons pas causer la moindre souffrance à qui que ce soit, mais nous souhaitons que tous ceux qui veulent vraiment être sauvés soient conduits sur le chemin qui y mène, qu'ils soient ramenés à la maison sans détour, qu'ils entrent par la porte étroite et trouvent le chemin étroit qui mène à la vie. Tout le reste passe à côté du but. Et puis, cet avertissement ici, verset 18, « Ne vous enivrez pas non plus de vin, ce qui conduit à la débauche, mais soyez pleins de l'esprit. » C'est là aussi notre prière intime, notre désir de devenir plein d'esprit. Plein de l'esprit. Car écoutez ce qui suit ici. Lorsque nous sommes pleins de l'esprit, verset 19, afin que vous vous entreteniez les uns les autres avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en chantant et en jouant pour le Seigneur dans vos cœurs. Oui, qui aimerait vivre cela littéralement? Que cela devienne une réalité divine parmi nous, que nous soyons pleins de l'Esprit et que nous ne nous parlions plus brutalement les uns les autres et que nous pensions, je vais lui dire ce qu'il y a à dire, ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il faut dire, mais que Dieu pourrait nous bénir et nous utiliser comme jamais auparavant. Je m'imagine tout simplement, je crois, qu'il arrivera que l'Église sera à la fin comme elle était au commencement. Que Dieu a donné un message de restitution par grâce et que parce qu'il s'agit d'une promesse, la restauration, la restitution doit devenir une réalité divine. Une réalité divine. La restitution de toutes choses. Il ne peut en être autrement. C'est ainsi que Dieu l'a voulu et c'est ainsi qu'il le réalisera lui-même. Revenons à l'événement d'hier soir. J'aurais souhaité, et c'était dans mon cœur, que les gens n'aient plus besoin d'être appelés, mais qu'ils reconnaissent sur instruction de l'Esprit quand leur heure est venue et que le moment est venu où la foi atteint le stade où Dieu peut se révéler à eux. S'il en est encore au point où le prédicateur doit demander et supplier, c'est que Dieu n'a pas encore pu faire ce qu'il veut faire. N'a pas encore pu opérer ce qu'il veut opérer. Mais si l'un ou l'autre est spontanément saisi par le Seigneur sous la proclamation de la parole, qu'il s'agisse de salut ou de guérison, de délivrance, c'est vraiment au nom du Seigneur, par la puissance de Dieu, que cela se passe sans qu'il soit encore nécessaire d'intervenir. J'ai lu le chapitre 9 des Actes des Apôtres, et il y a en effet des conduites de Dieu, que ce soit lors d'une conversion ou d'autres bénédictions, où le Seigneur donne une instruction pour que des frères imposent les mains afin que d'autres soient aidés. Dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, des versets 1 à 9, l'histoire de la conversion de Paul ou Saul a été écrite. Et je voudrais lire à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, auquel le Seigneur parla dans une vision. Ananias, celui-ci répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur poursuivit, « Lève-toi et va dans la rue dite droite. » C'est déjà bien. Le chemin tortueux s'arrêta. Maintenant, ça commença la route droite. Lève-toi et va dans la rue dite droite. Va dans la rue, appelée la rue droite. C'est bien que cette route porte ce nom. Dieu nous trace une route droite. Lors d'une conversion juste au Seigneur, les chemins tortueux cessent. Nous nous engageons alors et Dieu avec nous sur la route qui s'appelle et qui est droite. Là, dans la maison de Judas, informe-toi au sujet d'un homme appelé Saul de Tarse. Car voici qu'il prie. Et là où on prie, là le Seigneur répond. Là Dieu répond. Là Dieu peut donner des ordres, des instructions à d'autres pour qu'ils aident ceux qui en ont besoin. Car voici qu'il prie. Prions de manière à ce que Dieu puisse répondre à nos prières. De manière qu'il puisse utiliser d'autres personnes pour nous mettre en bénédiction. Au verset 12, pour qu'il soit une bénédiction pour nous et que nous soyons mis en bénédiction pour les autres, pour d'autres. Au verset 12, mais Ananias, Maintenant, le verset, au verset 12. Et il vit en vision un homme nommé Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Remarquez que le Seigneur a agi aux deux extrémités en même temps. Chez Saul qui était en train de vivre une conversion et chez Ananias que Dieu voulait utiliser pour que cet homme, Saul, vive une véritable conversion authentique et qu'il en soit imprégné et qu'il puisse effectivement partir en tant qu'homme de Dieu pour servir le Seigneur. Le Seigneur était apparu à Saul dans la lumière et lui avait parlé, mais cela n'a pas suffi. Ici, un homme est venu lui imposer les mains et il est dit afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit au verset 13. Seigneur, j'ai entendu de plusieurs côtés parler de cet homme, du mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Remarquez, dans cette vision, le Seigneur a parlé à Ananias. Ananias a aussi parlé. C'était une conversation avec le Seigneur. Ce n'était pas seulement des images. C'était une conversation. Le Seigneur a parlé à Ananias et Ananias parlait au Seigneur. C'était une conversation. Et ce n'est pas tout. L'objection, après tout, a été rectifiée. Et il dit encore, au verset 14, et là encore, il a reçu des principaux sacrificateurs le pouvoir de faire enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui répondit, verset 15, va, car, vous voyez, le Seigneur lui répondit, va, car cet homme est pour moi un instrument choisi. Il portera mon nom devant les nations et les rois et devant les enfants d'Israël, etc. Quelle merveilleuse expérience. Dans ce contexte, je voudrais en effet exprimer ma joie de voir le rideau de fer s'ouvrir. En ce lieu, nous ne nous occupons pas de politique, mais nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Que ce rideau se soit ouvert et que nos frères et sœurs bien-aimés puissent venir chez nous. Que Dieu les bénisse de la richesse de sa grâce parmi nous et dans ce pays. Que Dieu nous bénisse tous d'où que nous venions. Mais il faudrait savoir ce qui s'est passé non seulement sous Hitler, mais aussi sous Staline. Il faudrait comprendre ce que tous les Allemands des territoires de l'Est qui ont été déplacés à 35 à 36, 3000 kilomètres, ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils ont enduré pendant ces douzaines d'années, ces dizaines d'années, 36 ou 30 000 kilomètres, ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils ont enduré pendant ces dizaines d'années. Nous voulons leur souhaiter la bienvenue en ce lieu et dans ce pays. Je voudrais lire quelques passages pour revenir à hier soir. Faire confiance au Seigneur, vraiment faire confiance. Cela demande beaucoup de choses et nous allons également lire cela. La fidélité en fait partie. Avant d'y entrer dans ce sujet, je voudrais lire le premier chapitre de Jean pour dire clairement ici aussi que nous ne transmettons pas ce que les hommes ont dit, mais ce qui était dès le commencement. Ce qui nous a été transmis par des témoins oculaires et auriculaires. Non seulement nous n'avons pas repris les choses qui ont suivi leur cours au cours des siècles dans l'histoire de l'Église, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ramenés à la parole originale. C'est là qu'est notre place. Nous aimons la parole de Dieu de tout notre cœur. Nous la croyons et la recevons. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ils ont donc été des témoins oculaires et auriculaires. Et nous les croyons. Jean écrit à la fin de son évangile, ce disciple qui témoigne de cela sait que c'est vrai. Amen. Nous savons que la parole de Dieu est vraie. Et c'est en cela que notre foi est ancrée pour toujours. Le ciel et la terre peuvent brûler, les collines et les montagnes peuvent disparaître, mais celui qui cherche trouvera. La parole de Dieu reste éternellement vraie. Et le ciel et la terre disparaîtront. Car c'est écrit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ainsi, lorsque nous aurons reçu la parole de vie, une vie nouvelle sera produite par l'Esprit dans les rachetés. Le sang qui a coulé à Golgotha avait pour tâche de nous réconcilier avec Dieu, d'effacer nos fautes et pardonner nos péchés, de nous ramener à Dieu. La parole et l'Esprit ont pour objectif de susciter une nouvelle vie divine, d'opérer une nouvelle vie divine chez les rachetés. C'est pourquoi les trois choses vont toujours ensemble. La parole, le sang et l'esprit doivent être efficaces dans les rachetés. Je me réjouis que des témoins aient été présents dans les Saintes Écritures pour tout ce qui nous est rapporté. Qu'ils aient pu dire sincèrement et honnêtement qu'ils étaient présents. Ils ont été des témoins oculaires et auriculaires. Pierre écrit quelque chose de similaire dans le premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Deuxième Pierre, donc 2 Pierre, chapitre 1, il est écrit, d'ailleurs en relation avec le retour de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 16. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. En effet, selon Matthieu 17, Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne de la transfiguration lorsque Moïse et Élie sont apparus et que l'entretien a eu lieu concernant l'issue de la situation à Jérusalem. Partout, il y avait des témoins lorsque Dieu faisait quelque chose de spécial sur la terre. Permettez-moi maintenant de lire Hébreux, le chapitre 2. Hébreux, le chapitre 2. Ici, il est écrit du verset 3. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a commencé par la prédication du Seigneur lui-même et nous a été ensuite confirmé fidèlement par les témoins qui l'ont entendu. Les épîtres aux Hébreux ont manifestement été écrites par quelqu'un qui n'était ni témoin oculaire ni témoin auriculaire. Et l'écrasante majorité des exégètes croient que Paul a écrit les épîtres aux Hébreux. Et si l'on lit le chapitre 13, on retrouve en effet très clairement sa formulation. Ici, l'homme de Dieu, tel qu'il a été rapporte un bel homme de Dieu. J'aime beaucoup l'Épître aux Hébreux. Il est dit ici, au verset 3, « Comment échapperons-nous » d'Hébreux 2, verset 3, « si nous négligeons un si grand salut ?» Car ce salut a commencé par la prédication du Seigneur lui-même et nous a été ensuite confirmé fidèlement par les témoins qui l'ont entendu. Mais là, il n'y a pas de point. Là, il n'y a qu'une virgule. Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et par la distribution du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Ces hommes de Dieu n'ont pas seulement pu dire, écoutez, nous avons entendu des témoins oculaires et auriculaires nous dire et nous communiquer toutes ces choses. C'était le côté humainement possible que ceux qui ont vu et entendu puissent communiquer et rapporter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu aux autres qui n'ont pas vu ni entendu. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Ce rapport, les autres l'ont enregistré, mais Dieu lui-même a ensuite confirmé la chose par des miracles et des signes, par de multiples actes de puissance et par des distributions du Saint-Esprit selon sa volonté. Ce qui a été rapporté, ce qui a été annoncé, Dieu l'a confirmé par des multiples signes et miracles. Bien-aimés, ayons confiance en notre Seigneur, en cela aussi. Confiance que nous ne sommes pas seulement des rapporteurs. Confiance que nous ne nous contentons pas de témoigner ce que Dieu a fait dans notre génération, mais que nous avons la foi et l'assurance que Dieu s'ajoute à notre témoignage, qu'il vient à notre secours et qu'il confirme par les signes et les miracles suivants que ce que nous disons et annonçons est juste devant Dieu. Amen. Nous devons tous nous attendre à cela et nous plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, car nous aussi avons vu, en partie vu et entendu, ce qui s'est passé dans notre génération. Puisse-t-il vraiment plaire au Seigneur de susciter en nous une telle foi que nous verrions simplement un service divin normal tel qu'il nous a été laissé dans la Bible, tel qu'il nous a été transmis dans la Bible. Chaque fois que notre Seigneur tenait un service divin, que se passait-il? Les pécheurs étaient pardonnés, les malades étaient guéris. Il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Sans exception, il manifestait la puissance de Dieu dans l'âme, l'esprit et le corps chez ceux qui sont venus à lui par la foi. Si le Seigneur parvient par la prédication de la parole à amener l'Église à ce niveau que nous demandions et prions ensemble. Seigneur, nous voulons un service divin tel qu'il a eu lieu dans les Saintes Écritures et tel qu'il a été rapporté dans l'Église primitive ou tel qu'il a été rapporté de l'Église primitive. Ce qui s'y est passé, que nous ne sommes plus satisfaits du genre de service divin que nous avons maintenant, qui sont bons pour l'instruction, pour l'édification, mais le passage à la confirmation divine, à la révélation et à la manifestation de la puissance de Dieu elle-même doit tout simplement venir. Nous devons franchir ce mur du son, croire et faire confiance pour que le bras de Dieu soit étendu et que le Seigneur puisse confirmer de manière puissante ce que nous annonçons de sa parole. Quand notre bien-aimé frère de l'Union soviétique a témoigné ici comment la directive a été donnée, l'instruction lui a été donnée pour qu'il viendrait et qu'on lui imposerait les mains. J'aurais aimé que l'inspiration s'empare de l'un et de l'autre et les saisisse. Tout est possible. Dans ces moments où Dieu commence à agir directement, soyons vigilants pour ne pas manquer de tels moments. Si un seul vient, 10 peuvent aussi venir. Et si 10 viennent, 100 peuvent aussi venir. Et le Seigneur les guérira tous. En ce temps-là, quand 10 lépreux sont venus, il en a guéri 10. Mais toutes les personnes guéries ne sont pas revenues pour le remercier. Mais tous ont été guéris. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier. Soyons vraiment vigilants dans les réunions et suivons la direction, la conduite du Saint-Esprit. Alors, vous ne faites plus attention à ce qui vous entoure. Vous ne pensez plus qu'est-ce que quelqu'un va dire. Maintenant, il faut en arriver là, où nous sommes rassemblés devant la face de Dieu, de telle sorte que chaque individu reçoive sa directive du Seigneur lui-même. Regardez comment c'était beau. Le frère a été poussé. Il a pris sa liberté. Il s'est avancé devant. L'ordre divin doit régner ici. Et c'était tout à fait dans l'ordre. Tout à fait. Cela aurait été encore mieux, comme je l'ai déjà dit, si beaucoup étaient venus. Permettez-moi de revenir à hier soir ou au thème et de lire encore quelques passages bibliques pour nous montrer que Dieu a gardé la fidélité à ceux qui étaient fidèles à lui. Il y a un passage biblique qui dit, si vous vous tenez à moi, je me tiendrai à vous. Si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. C'est tout simplement une union avec notre Seigneur, une marche au même pas dans lequel nous pouvons marcher avec lui par grâce. Dieu passe deux passages du prophète Daniel m'ont beaucoup touché. Daniel chapitre 3, verset 28. Daniel chapitre 3, verset 28. Alors, Nebuchadnezzar s'écria, « Loué soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego, d'avoir envoyé son ange et d'avoir sauvé ses serviteurs qui, se confiant en lui, avaient transgressé l'ordre du roi et avaient exposé leur vie pour n'avoir... Ils avaient exposé leur vie. Avez-vous suivi la lecture? L'avons-nous intégré en nous? C'est un souverain infidèle qui a prononcé cela. Et ce, par des hommes qui sont restés fidèles à l'Éternel, leur Dieu. À l'heure de l'épreuve, ils ont exposé leur vie. Mais pas leur vie de foi, leur âme. Seulement leur vie terrestre, le corps, ils l'ont livré à la mort. Mais pas l'âme. Ils ont gardé l'âme en vie en faisant confiance à Dieu. Je le dis encore une fois. Alors Nebuchadnezzar s'écria, « Loué soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego, d'avoir envoyé son ange et d'avoir sauvé ses serviteurs qui, se confiant en lui, avaient transgressé l'ordre du roi et avaient exposé leur vie pour n'avoir à adorer et à se prosterner devant aucun autre Dieu que leur Dieu. Les ennemis du peuple de Dieu, ils ont porté plainte et sont venus dire au roi, « Ô roi, que tu vives éternellement. » Mais voilà, il y a là des gens qui n'ont pas leur place dans ton royaume, qui prient un Dieu qui nous est étranger à nous et à toi. Il y a encore aujourd'hui sur terre des gens qui ne conviennent à aucun pays ni à aucun royaume de la terre. Qui ne conviennent qu'au royaume de Dieu parce qu'ils appartiennent au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais non de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais non de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, tout comme notre Seigneur n'était pas de ce monde. Le même Nebuchadnezzar qui a donné l'ordre. L'ordre, jetez-les dans la fournaise et faites-la chauffer 7 fois plus que d'habitude, dans l'espoir qu'il ne reste vraiment plus rien. Et voilà, comme il le confesse lui-même ici, le même homme, le même Nebuchadnezzar, celui-ci se met soudain à louer le Dieu des dieux, le lieu des cieux, parce qu'il a été témoin de la fidélité de Dieu à l'heure de l'épreuve. Il a vu, il a vécu que Dieu garde sa fidélité à ceux qui osent lui faire confiance jusqu'au bout, qui donnent leur vie à la mort pour qu'ils puissent les sauver. Non, Seigneur, n'a-t-il pas dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ces 3 hommes ont donné leur vie à la mort, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont placé leur confiance dans le Seigneur. Et cela a donné beaucoup à dire à ce roi, au point qu'il s'est exclamé, « Loué soit Dieu !» Loué soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui, en se confiant en lui, avaient transgressé l'ordre du roi et avaient exposé leur vie. Amen. Un magnifique témoignage. Et vous savez ce qui l'a précédé. Lorsque Nebuchadnezzar lui fut appelé, à voir les cendres, il ne vit pas les cendres de 3 hommes. Il vit subitement 4 hommes et pas de cendres. Il vit 4 hommes. Et quand les 3 sont sortis, le 4e est retourné à la gloire d'où il venait. Quand les 3 sont sortis, il n'y avait même pas d'odeur de brûlé sur leurs vêtements. Pas même une odeur de brûlé sur leurs vêtements. Vous pouvez le croire? Est-ce que vous pouvez le croire? Je le crois aussi pour vous tous. Notre Dieu a dit dans le prophète Ésaïe 43, « Si tu traverses les eaux, les flots ne te submergeront pas. Et si tu traverses le feu ne pourra pas te faire de mal. Notre Dieu a le pouvoir sur le feu. » Il a le pouvoir sur tout. Et cet homme vient et s'exclame, loué soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego. Et puis, il a dit, oui, c'est lui que nous devons vénérer, etc. Ainsi de suite. Permettez-moi de lire le 2e passage, et plus précisément de Daniel 6, verset 23. Daniel 6, verset 23. Il s'agit ici du prophète Daniel lui-même qui est également resté fidèle à l'heure de l'épreuve. Il lit le verset 24, Daniel 6, verset 24. Alors le roi fut transporté de joie et il fit remonter Daniel de la fosse. Et quand on l'eut remonté, il ne se trouva pas en lui la moindre blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Il y a suffisamment de témoignages dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Oui, nous pourrions dire avec l'auteur des Lettres aux Hébreux, puisque nous nous voyons entourés d'une telle nuée de témoins. Il y a des témoins véritables qui n'ont pas seulement parlé de Dieu et par lesquels Dieu n'a pas seulement parlé, mais des personnes qui ont fait l'expérience de la puissance de Dieu, du soutien de Dieu, de l'aide de Dieu, des bénédictions de Dieu. sur cette terre. Je crois qu'il y en a aussi parmi nous beaucoup qui ont expérimenté Dieu de la même manière, que ce soit le salut, la préservation, la guérison, les bénédictions de toutes sortes. Mais restons fidèles, même dans les épreuves particulières, quand il faut vraiment aller jusqu'au bout et que notre vie devrait être donnée dans la mort. C'est facile à chanter, trouver toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui. Peut-être pas toujours aussi facile de faire preuve de cette fidélité. Même à l'époque des apôtres, que ce soit Pierre, que ce soit Paul et Silas, que ce soit la prison, que ce soit les coups, tout cela n'avait pas d'importance. Ils étaient fidèles. Ils n'ont pas rouspété, ils ont chanté et se sont réjouis. Et plus tard, ils ont rendu grâce d'avoir été dignes de supporter tout cela pour le nom de Jésus. Je relis le verset encore une fois. Le verset 24 de Daniel 6. Alors le roi fut transporté de joie. La première joie, il l'a déjà eue avec les trois hommes qui ont été jetés dans la fournaise et qui en sont sortis. Il les a appelés, sortez. Je vais vous le lire encore une fois, je vais vous le lire tout de suite. Et maintenant encore une fois, verset 24. Alors, de Daniel 6 d'abord, alors le roi fut transporté de joie. C'est bien, il est beau qu'un souverain terrestre puisse se réjouir à cause de ce que Dieu a fait. Puisse Dieu faire encore de telles choses qui émerveillent les princes et les rois. Et notre Dieu a sa puissance. Car il est tout puissant. Il y a un passage dans le prophète Jérémie et même dans Ésaïe. Il y a deux bons passages, plusieurs. Toute la Bible est remplie de bons passages qui disent que Dieu va faire des choses qui dépassent notre attente. Ô Seigneur, que tu déchires les cieux et que tu les fasses descendre et que tu fasses des choses et que tu descendes et que tu fasses des choses qui dépassent notre attente. Je peux vous le lire tout de suite si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, c'est écrit, je veux dire, dans le prophète Daniel, chapitre 6, verset 23. Encore une fois, je lis le verset 24 de Daniel 6. Alors le roi fut transporté de joie, il fit remonter Daniel de la fosse, et quand on l'eut remonté, il ne se trouva pas en lui la moindre blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je ne sais pas ce qu'il serait resté de lui si cette confiance n'avait pas été dans son cœur et dans son âme à l'heure de l'épreuve. Peut-être devrions-nous tout de même lire le chapitre 3 du verset 26. Chapitre 3, verset 26. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et appela Sadras, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et approchez-vous. Amen. Avant cela, ils étaient encore quatre, oui. Au verset 25, ils étaient encore quatre. Il est dit, or je vois quatre. Alors il répliqua, or je vois quatre hommes qui se promènent dans le feu sans être liés, sans qu'on remarque en eux aucune blessure. Et le quatrième a l'air d'un fils de Dieu. Mais il n'en a appelé que trois. Il n'en a appelé que trois de leur nom. L'un d'eux n'est venu qu'en visite. Il n'avait pas sa place sur cette terre. Les trois y furent jetés. Les trois, il les a appelés. Il n'a pas besoin d'appeler l'un, deux, le quatrième, car il est retourné d'où il était venu. Et que lisons-nous ici? Serviteur du Dieu, la deuxième partie du verset 26. Serviteur du Dieu très haut, sortez et approchez-vous. Alors Sadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu, etc., etc. Peut-être que je trouve encore ce verset où il est écrit. Oui, c'est le verset 27, verset 27. Peut-être que je devrais le lire entièrement. Daniel 3, verset 27. Et les satrapes, les gouverneurs, les commandants et les conseillers du roi qui s'étaient rassemblés là, virent alors que le feu n'avait rien pu faire à ces hommes sur leur corps. Leurs cheveux de la tête n'avaient pas été brûlés, leur manteau n'avait pas été endommagé, et pas même une odeur de brûlé ne les avait atteints. Ça, c'est la parole sainte de Dieu. Ces hommes qui ont été influencés et qui ont ensuite influencé le roi ont dû voir de leurs propres yeux que le Dieu Tout-Puissant est fidèle à ceux qui lui sont fidèles à l'heure de la plus grande épreuve, que le nom du Seigneur soit loué. Je voudrais encore lire et plus précisément à partir de deux chroniques, un seul passage encore tiré de l'Ancien Testament, puis quelques autres tirés du Nouveau Testament. Chronique, chapitre 2, Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20, la deuxième partie. Ici, il est écrit la chose suivante. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes et vous serez vainqueurs. Il s'agit ici de la confiance. Mettez votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés. Mais l'Éternel Dieu ne fait rien, si ce n'est qu'il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous fassions confiance non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui ont parlé de la part de Dieu au nom du Seigneur. Comme il est écrit, c'était des hommes saints qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, non pas de leur propre chef, mais de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Nous croyons tous les prophètes de Dieu. Nous croyons les apôtres. Nous plaçons notre confiance dans la parole que Dieu a prononcée par leur bouche, sur les lettres, sur les épîtres qui nous ont écrites. Certes, dans ces épîtres, il n'y a pas seulement des choses difficiles à comprendre. Il y a aussi des choses terrestres. Paul y écrit, « Je vais passer l'hiver avec vous, que le manteau que j'ai laissé ici et là me revienne. » On trouve aussi des choses terrestres dans les épîtres, car nous sommes encore tous sur terre. Mais au milieu de tout cela, où la raison principale de toutes ces épîtres est de nous donner un aperçu complet de ce que Dieu veut, de ce qu'il a prévu pour nous, de ce qui doit être enseigné, de ce qui doit être annoncé, et aussi de ce qui doit encore être fait selon la partie prophétique, spécialement et particulièrement dans ce dernier temps. Tout a été mis par écrit et nous pouvons nous exclamer avec Pierre. La parole prophétique que nous possédons est d'autant plus solide pour nous. Elle est devenue une partie de nous et nous sommes devenus une partie de la parole. Nous possédons la parole et elle est devenue pour nous une révélation par grâce. Il s'agit en effet de la confiance. Faites confiance au Seigneur. Il est écrit ici, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sécurité. Et vous serez sécurisés. Ces trois hommes faisaient confiance à leur Dieu. Daniel faisait confiance à son Dieu. Cela est devenu visible que c'était ainsi. Il deviendra visible que nous aussi, en ces jours, nous avons mis notre confiance entièrement en Dieu. En Dieu, l'Éternel. Nous avons lu hier, ne placez pas votre confiance dans les hommes. Ne placez pas votre confiance dans des princes, mais uniquement dans le Seigneur. Et celui qui se confie en lui ne sera pas confondu. Au contraire, il expérimentera que Dieu prouve sa fidélité. Il fera l'expérience de la fidélité de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et c'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes et vous serez vainqueurs. Oh, quelle parole glorieuse, glorieuse. Dieu a des voies et des moyens pour parler à son peuple. Il prend qui il veut et quand il veut, il parle et agit. Et aucun homme ne peut lui donner de conseils. Il est lui-même conseil, force, Père éternel, Prince de la paix. Il dit, qui a été mon conseiller? Il n'a pas besoin de conseiller. Il sait toutes choses par lui-même. Permettez-moi de lire encore un peu. Dans le chapitre 3 d'Éphésiens, Paul exprime de manière très particulière qu'il a placé sa confiance dans le Seigneur. Qu'il a placé sa confiance dans le Seigneur. Il s'agit encore ici de que non seulement les prophètes, mais aussi les apôtres, et c'est de l'intimité du mystère qu'ils avaient ici, de la familiarité qu'ils avaient avec le mystère. Ici, Éphésiens 3, verset 4. Par là, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère de Christ. Verset 5. Ce qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Une parole très importante. Non seulement faire confiance, pas seulement des choses qui leur ont été confiées en tant qu'apôtres et prophètes, mais ils étaient familiarisés avec ce que Dieu avait prévu pour son peuple et nous avait préparé. Pour que cela soit bien clair, il faut préciser qu'il ne s'agit pas ici de prophètes de l'Ancien Testament, mais d'apôtres et de prophètes du Nouveau Testament. Et je vous le dis tout de suite. Et je vous le dis dans la parole du Seigneur, c'est-à-dire directement ici dans l'épître de Pierre. Dans l'épître de Pierre, c'est l'homme de Dieu lui-même qui nous l'a dit. Donc 1 Pierre chapitre 1 du verset 10. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes ont réfléchi et fait des recherches, eux qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été accordée, cherchant à découvrir quel était le temps que l'Esprit du Christ agissant en eux indiquait lorsqu'il leur attestait d'avance les souffrances destinées au Christ et ses gloires qui suivraient. Il leur fut révélé que par leur ministère, ils devait transmettre non pas à eux-mêmes, mais à vous les choses même qui vous sont maintenant annoncées par les hommes qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Des choses dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont fait des recherches. Quand cela peut-il arriver? Quand cela arrivera-t-il? Mais il leur a été révélé que le ministère qu'ils avaient, la prédication qui leur avait été confiée, n'aurait pas lieu en leur temps. Mais comme il est écrit ici, qu'ils n'ont pas été alors, que ces choses n'ont pas été pour eux, mais pour nous. Et qu'ils ont transmis ce qui a été annoncé maintenant par les hommes qui vous ont prêché l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. En fait, aucun exposé ne devrait être donné. Il faut prêcher par le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. De même que les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, ont reçu la parole par inspiration. De même, les hommes du Nouveau Testament reçoivent par la même inspiration du Saint-Esprit la révélation. Ils reçoivent l'intelligence, l'aperçu et la clarté de ce qui a été annoncé à l'époque et qui a trouvé son accomplissement ensuite, par la suite. Dieu n'a pas besoin d'exposés arides, truffés de connaissances humaines. Dieu veut que nous soyons vidés par lui et ensuite remplis de la parole et du Saint-Esprit. Selon la parole de l'Écriture, ils seront tous enseignés de Dieu. Et par Dieu, et enseigné par Dieu signifie être enseigné par la parole de Dieu. Alors un frère n'aura plus besoin de dire à un autre, apprends à connaître le Seigneur, car tous, du plus grand au plus petit, auront connu le Seigneur. Je crois pouvoir dire que nous aussi, nous pouvons faire partie de ceux qui ont reçu la grâce, à ceux à qui les mystères qui étaient restés cachés ont été révélés, mais que dans les derniers jours, que nous les avons compris par la grâce de Dieu. Je crois que si le plus grand des prophètes était parmi nous, alors il serait d'accord avec ce qui est annoncé ici. Il dirait oui et amen. Et tous les apôtres feraient de même. Car en vérité, Dieu prend maintenant toutes les choses ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament, de toute la prophétie, et nous présente une image parfaite de tout ce qui doit arriver maintenant. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir vivre dans cette génération. Un privilège extraordinaire d'avoir reçu des yeux oints pour voir ce que Dieu montre, pour entendre ce que Dieu dit, que Dieu nous ouvre les oreilles à la manière des disciples qui entendent ce qu'il a à dire. La parole disciple et élève est la même chose. Les disciples sont des élèves. Ils apprennent du Seigneur et font ce qu'il leur a enseigné. Vous êtes mes vrais disciples si vous faites ce que je vous ai commandé. Deux choses sont à faire. Nous sommes enseignés et nous faisons selon ce qui nous a été enseigné. Et ainsi, nous devenons des pratiquants de la pratique, des gens qui mettent la parole en pratique. Bien-aimés, l'heure a sonné où Dieu veut être, où Dieu est très sérieux avec nous et nous avec Dieu. L'heure est venue pour nous d'accorder notre pleine confiance à Dieu. Que vienne ce qui doit venir. La plupart des gens s'inquiètent déjà de savoir ce qu'ils diront en cas de persécution. Il y a même des frères et sœurs bien-aimés qui ne se font pas envoyer les brochures ici, d'ici, et qui ont dit ouvertement, nous ne voulons pas que notre adresse soit chez vous. Car le moment venu, ce sera, n'est-ce pas, notre tour. Ce sera alors notre tour. Il y en a aussi de tels frères et sœurs. Ils le disent ouvertement. Parce que le moment venu, c'est à nous de jouer. Quand la persécution va venir, alors ils se laissent venir chercher leur brochure, les envois. Ça, ce sont les Nicodèmes. Ils doivent encore venir au Seigneur comme ça. Pas la nuit, mais le jour, je vous le dis. Dieu veut des gens qui lui font confiance, dont la vie ne signifie plus rien pour eux, qui ont reçu la vie du Christ. Car nous qui vivons maintenant, nous vivons la vie de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est mort pour nous. Vous pouvez tous avoir mon adresse. Ils peuvent tous l'avoir. Quand j'ai été contacté par le Conseil mondial des Églises depuis Genève, pour la cause de Branham et ainsi de suite, À cause de Branham, j'ai répondu très joyeusement. Très joyeusement. Tout de suite. Ils peuvent avoir tous les brochures, les livres. L'Antichrist peut avoir le livre sur l'Antichrist. Cela n'a aucune importance pour moi. S'il faut abattre, alors il faut abattre. Si l'heure est venue, elle est là. Nous ne faisons rien avec intention. Et s'il y a une intention, c'est uniquement pour aider les masses populaires trompées, pour leur ouvrir les yeux. Qu'a dit le Seigneur à Saul? Je t'enverrai vers la nation pour que tu leur ouvres les yeux. Oui, comment un homme peut-il ouvrir les yeux d'un autre? Comment? Pas avec une main, des pincettes ou un instrument, mais en effectuant une opération ou en effectuant une opération quelconque. Comment les yeux s'ouvrent-ils? Comment est-ce que les yeux spirituels s'ouvrent-ils? Lorsque la parole du Seigneur est annoncée, que la vérité divine pénètre en nous et que nous sommes libérés, alors la lumière s'ouvre à nous au milieu des ténèbres. Nous avons placé notre confiance dans le Seigneur et nous savons en qui nous croyons et nous savons aussi ce que nous croyons. C'est-à-dire, non pas des fables habilement conçues, rien de sophistiqué, mais la vraie parole de Dieu pure et éternelle. Nous l'avons reçue en nous et nous la portons jusqu'à ce qu'elle nous transporte au-delà. Cette même parole qui était dans l'Arche d'Alliance et qui reposait sur les épaules des sacrificateurs dans l'Arche de l'Alliance, cette même parole, Dieu l'a confirmée et a divisé le Jourdain pour amener le peuple qui a porté la promesse dans le pays de la promesse. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Dieu veille sur Israël. Dieu veille sur l'Église. Dieu veille sur tout. Sur tous. Il ne dort pas et ne sommeille pas. Il est le Dieu vivant. Puissions-nous avoir une telle confiance en lui qui serait tout simplement inébranlable. Et je crois qu'il y a un autre passage biblique dans l'épître de Pierre qui a également déterminé cette confiance que nous devrions avoir et que nous avons dans le Seigneur. J'aimerais encore souligner cela. Ce passage devrait se trouver dans 1 Pierre chapitre 2. Je ne l'ai pas encore marqué, je veux juste voir où c'est. 1 Pierre chapitre 2, je lis 2-3 versets et sûrement que nous allons arriver à ce verset, nous le trouverons. Verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Car l'Écriture dit, voici que je pose en Sion une pierre choisie. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Car l'Écriture dit, voici que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle précieuse. Et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confondu. Ce n'est pas encore tout, encore quelque chose. Ça vient encore plus, ça vient encore plus. Gloire à Dieu. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Ici, il s'agit de la confiance, comme hier aujourd'hui nous l'avons décrit ou bien alors lu et traité. Il y avait des gens qui avaient confiance en Dieu et Dieu avait confiance en eux. Et cela doit aussi se manifester à la fin des jours maintenant. Que nous ayons mis notre confiance en Dieu et que nous arrivions aussi à ce que Dieu puisse nous confier quelque chose. Que Dieu puisse aussi nous confier quelque chose. Qu'il ne nous monte pas à la tête, mais qu'il va jusqu'au cœur. Et que nous sachions vraiment que ce n'est pas le récipient, le vase, comme Paul le disait alors. Non, pas comme si cette force venait de nous, comme si nous la possédions. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et cela le restera jusqu'à la fin. Quel verset magnifique. Voici que je la pose Voici que je pose à Sion une pierre choisie, une pierre angulaire précieuse. Et au lieu du verset 6. Et quiconque met sa confiance en lui, et ce qui a mis sa confiance dans le Seigneur, tous les hommes de Dieu ont mis leur confiance dans le Seigneur. Les trois hommes, Daniel, qui ils étaient tous, ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. Je vous le dis, le Seigneur est fidèle. Il se tiendra avec ceux qui se tiennent avec lui. Et il témoignera avec ceux qui lui ont rendu témoignage. Car Dieu est fidèle, il ne peut pas faire autrement. Mais comme je voulais essayer de le dire tout à l'heure, il y a des gens qui ont un esprit pessimiste. Ils ne voient que du noir. Ils craignent déjà les choses qui pourraient arriver dans 10 ou 20 ans. Ils ont peur qu'il se passe quelque chose. Et l'esprit aussi est un mauvais esprit. Cet esprit aussi est un mauvais esprit qui tourmente les gens et les torture. Les fait périr par la pensée, par l'esprit. Et ils souffrent et ne remarquent même pas que ce sont des démons qui provoquent ces souffrances en eux et cette inquiétude. S'il y a des gens qui devraient penser et agir positivement, c'est bien nous, les croyants, oui, qui viennent, que vienne ce qu'il veut. Dieu sait ce qui vient. Et si cela arrive aujourd'hui, il prend soin aujourd'hui. Et si c'est demain, il prendra soin pour nous demain. Il connaît notre jour et notre aujourd'hui, nos demain. Il connaît le temps jusqu'à ce qu'il débouche sur l'éternité. Peut-être devrions-nous aussi demander que le Seigneur nous enlève ces esprits qui agissent sur nous, qui nous influencent, qui nous tourmentent, qui nous détruisent avec des pensées de toutes sortes, des pensées négatives et d'inquiétude sur le futur. Et nous nous retrouvons finalement dans une pensée directement négative et nous ne savons plus où donner de la tête. Laissons toutes ces choses. Qu'avons-nous à faire avec cela? Nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons lui faire confiance. Que vienne ce qui vient, l'Éternel sera avec nous. Comme il a été avec tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Même en cas de guérison, il est absolument nécessaire de laisser derrière soi toutes les pensées négatives et de venir vers le Seigneur, au Seigneur, de lever les yeux vers lui avec joie et de dire, Seigneur, tu l'as déjà fait, c'est accompli, tu m'as racheté, tu m'as libéré, tu m'as guéri. Je t'en remercie de tout mon cœur. Et c'est alors que cela deviendra manifeste. Car c'est vraiment une œuvre déjà accomplie. Le Seigneur s'est exclamé, pas un homme. C'est lui-même qui a crié. C'est accompli. Et vous savez ce qui s'est passé? Les rochers se sont fendus. Le rideau du temple s'est déchiré. Même de manière perceptible sur terre. Que Dieu a accompli à ce moment-là, sur terre, un acte de l'histoire du salut. Satan est vaincu. La tête du serpent est écrasée. Nous sommes rachetés. Même tous les démons qui veulent nous tourmenter avec des pensées négatives doivent s'en aller. Combien aimerait vivre une libération totale, une totale délivrance, vraiment une totale délivrance de toutes ces choses qui nous tourmentent. Ils doivent disparaître. Elles n'ont pas leur place dans notre vie. Toutes ces pensées négatives, car il est écrit, celui que le Fils affranchit et libère, il est vraiment libre. Il a le pouvoir et les moyens d'éliminer les démons qui nous entourent, qui ne sont pas en nous, mais qui nous influencent de l'extérieur, car il règne encore dans le domaine de l'air, que nous repoussions ces choses par la grâce de Dieu. Et que nous disions que Satan éloigne-toi de moi, arrière de moi, je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. J'appartiens au Seigneur et je n'ai rien à faire avec qui que ce soit d'autre. Il faut le dire clairement, il faut le prononcer une fois pour toutes. Arrière de moi, Satan. Dès qu'on ressent une pensée négative sur quoi que ce soit, combien veulent dès aujourd'hui mettre leur confiance dans le Seigneur et ainsi donner la gloire au Seigneur. Pas sur toi, pas sur moi, mais sur le Seigneur. Pas sur toi, pas sur moi, pas sur un homme, et pas sur des princes, mais sur l'Éternel. L'Éternel des cieux, de la terre. Comme cela a pu être attesté au jour de Daniel, pour les trois hommes et pour lui-même, qu'ils ont placé leur confiance dans l'Éternel Dieu. Et il a récompensé leur fidélité. Il a gardé, il a été avec eux, il les a gardés comme il l'avait promis. Il récompensera aussi la fidélité chez nous, avec nous. Il couronnera la confiance, il confirmera sa parole et nous bénira de la richesse de sa grâce. Si déjà les esprits de crainte et de peur s'étaient éloignés de nous, car la peur et la confiance sont ici en conflit l'une avec l'autre. Abandonnez toute crainte, toute peur. Frère Rousse vient de dire, la peur n'est pas dans l'amour, la crainte n'est pas dans l'amour. Et il en est ainsi. C'est ce que dit la parole de Dieu. En mettant fin à cette peur étrange qui veut souvent s'emparer des croyants, toutes ces pensées négatives, à cette crainte. Oui, comment sommes-nous? Oui, et qu'est-ce qui va se passer? Et certains ont peur de passer sous un tunnel, d'autres sur le pont, d'autres encore parfois au-delà de toute crainte. Parfois au-delà, non, sortons au-delà de toute crainte. D'autres, comment cela va-t-il se passer? Finis la peur. Que l'amour de Dieu qui chasse toute crainte nous fasse trouver le repos en Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et nous voulons entrer dans ce repos divin et que le diable s'en aille. Il n'a aucun droit sur le peuple de Dieu. Le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et nous sommes ici pour assister à ce dernier départ, à ce dernier exode par la grâce de Dieu. Loué soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a montré sa fidélité et nous la montrera jusqu'à la fin. Nous aussi, nous voulons mettre notre confiance et notre foi en lui, car nous savons au plus profond de notre cœur qu'il fera toutes choses bien et qu'il conduira tout glorieusement au jour de son retour. Alléluia! Loué soit son nom. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Frère Rousse va prier avec nous ensemble et louer le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions du fond de notre cœur pour ta puissante parole, par ton Saint-Esprit et par ta parole en cette heure matinale. Seigneur, en effet, que tout nous soit enlevé au nom de Jésus-Christ maintenant. Seigneur, nous voulons nous tenir là, Seigneur, comme ceux qui nous ont précédés, Seigneur, comme les trois hommes, Seigneur, dans la fournaise, comme un Daniel jeté dans la fosse au lion, Seigneur, comme tous les hommes de Dieu, comme Paul, Seigneur, fais grâce à ton peuple en ces derniers jours, en ces derniers temps, car tu seras fidèle à ton peuple et tu accompliras ton œuvre, Seigneur. Comme dans tous les temps, ainsi en est-il de nos jours, ô Dieu, car tu n'as pas encore changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'adorons et te remercions du fond de nos cœurs, de nous permettre de venir, Seigneur, comme nous sommes actuellement. Seigneur, aide ton peuple, aide-nous tous, ô Seigneur, enlève tout de nous. Seigneur, et donne-nous un cœur pour te louer, Seigneur, pour te chanter des louanges, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour te faire confiance, Seigneur, à chaque instant, à chaque heure. Seigneur, que nous ayons la bienheureuse connaissance, Seigneur, que tu veilles sur nous, Seigneur, nous, non seulement quand nous sommes ici ensemble, rassemblés, mais chaque jour, même si nous sommes dans des lieux solitaires, seul quelque part, Seigneur, tu seras avec les tiens, toujours, Seigneur, gloire et honneur, gloire et adoration, soit à ton merveilleux nom, Seigneur, tu as parlé, et nous te prions ardemment, continue d'agir, ô Seigneur, fais que tout ce que tu as décidé d'accomplir se réalise, ô Seigneur, nous ne voulons plus déterminer, Seigneur, mais c'est toi seul, Seigneur, qui détermine dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, qui décide, nous te remercions et louons ton glorieux nom, de Jésus. Alléluia. Amen.